ici André Champagne. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouvel épisode de votre balado Expertise, une série de balados présentés par les partenaires de contenu du Carrefour RH. Le thème du balado d'aujourd'hui, une vue 360 de l'information judiciaire pour mieux recruter. Les entreprises ont du mal à recruter. Les personnes judiciarisées ont du mal à trouver un emploi. Les CRHA peuvent donc jouer un rôle au bénéfice des employeurs et des candidats à l'emploi. Les informations contenues dans ce balado devraient aider les CRHA en ce sens. Avant de vous présenter mes invités d'aujourd'hui, plaçons le sujet de ce balado en contexte. Pour ce faire, voici quelques chiffres d'un sondage léger commandé par l'Ordre CRHA en 2020. Sur la rareté de la main-d'œuvre, recrutement, pénurie et attraction de la main-d'œuvre sont le principal enjeu de gestion RH pour 75 % des répondants. Finalement, du côté des employeurs, 72 % des entreprises ne sont pas prêtes à embaucher une personne judiciarisée. Et pour évoquer tout ça, je vous présente mes invités d'aujourd'hui. D'abord, Mme Émilie Larrivé, avocate et agente de formation chez SOCIJE, la Société québécoise d'information juridique. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2017. Maître Émilie Larrivé a obtenu son baccalauréat en droit à l'Université de Sherbrooke en 2014 et y a terminé sa maîtrise en droit et politique de la santé en 2018. Elle a commencé sa carrière en tant qu'avocate en cabinet privé et y a pratiqué en droit civil et familial avant de se joindre à l'équipe de SOCIJE en 2019 à titre d'agente de formation. À ce titre, elle présente régulièrement des conférences sur des sujets d'actualité juridique variés, la méthodologie de recherche juridique et sur le service Les Plumitifs. Bonjour, Émilie.
Bonjour.
Je vous présente maintenant M. Patrick Pilon, qui est président du comité consultatif pour la clientèle judiciarisée adulte. Patrick détient une expérience de plus de 10 ans dans le domaine de l'employabilité des personnes judiciarisées. D'abord comme agent de liaison en milieu carcéral, il a ensuite été un acteur de sensibilisation des employeurs de l'Outaouais à l'embauche des personnes judiciarisées. Depuis 2018, il est directeur général de l'organisme Réabex. Il est l'actuel président du comité consultatif pour la clientèle judiciarisée adulte et siège sur les conseils d'administration de plusieurs organisations qui touchent l'employabilité et la judiciarisation. Patrick est connu pour ses nombreuses initiatives, dont celles qui soulignent des personnes, des institutions, des organismes et des entreprises la distinction d'ambassadeur de la réhabilitation sociale en Outaouais pour des actions ou un engagement exceptionnel envers la cause de la réhabilitation sociale. Bonjour, Patrick.
Bonjour.
Bon, alors, on attaque un sujet que je trouve super intéressant parce que il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent, sur la pénurie de main-d'œuvre, on a beaucoup entendu parler de ça, mais je pense qu'on en est arrivé à un niveau où il y a un peu de redondance. Je vous rassure, aujourd'hui, c'est vraiment du contenu très nouveau. En tout cas, moi, je pense que vous allez passer un excellent moment avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer tout de suite avec Émilie. Qu'est-ce qu'on entend au juste par l'information judiciaire?
Oui, ben, pour bien vous l'expliquer, j'ai envie aussi de situer un peu qui est SOCIJE, qu'est-ce qu'on fait à la Société québécoise d'information juridique. Donc, SOCIJE, on est une société paragouvernementale, puis on vise à moderniser l'information juridique pour simplifier la justice au Québec. On dit souvent, on entend ça, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, SOCIJE développe des outils pour permettre aux professionnels, notamment, de mieux comprendre l'information juridique et l'information judiciaire. Dans le cadre de la balado, on a eu envie de joindre avec le comité consultatif clientèle judiciaire adulte pour, en quelque sorte, mettre en lumière l'humain derrière cette information judiciaire-là. Souvent, ce qui nous vient en tête quand on parle d'information juridique, d'information judiciaire, l'image populaire qu'on a, c'est l'avocat togé, les avocats devant un juge, l'accusé devant un juge qui va recevoir un verdict de culpabilité, un verdict d'acquittement. Faut pas oublier, tout ce qu'implique le processus judiciaire, l'information juridique et judiciaire, elle comprend vraiment tout l'historique, toute la démarche judiciaire, donc les procédures, tout ce qui est inscrit dans le dossier avant le procès, les procédures qui démarrent un dossier à la cour, les procédures pendant un procès et après le procès. Donc, l'information judiciaire, c'est toute cette information-là, tout l'historique des dossiers. Cette information-là est généralement conservée dans des registres qui sont informatisés et qui sont tenus et mis à jour par les fonctionnaires des tribunaux, donc les employés des palais de justice. Chaque fois qu'un dossier est ouvert à la cour, ils vont consigner cette information-là. Cette information judiciaire-là, elle se retrouve dans des registres qu'on appelle généralement les plumitifs. Donc, ces bases de données-là du ministère de la Justice, des cours municipales, comprennent vraiment la trace écrite de tout ce qui se passe dans les dossiers dès qu'un dossier est ouvert. Et ça concerne généralement des dossiers de différentes natures. On pense souvent à dossiers judiciaires, OK, dossiers criminels, mais non, ça peut être différents types de dossiers, une poursuite civile où on réclame un montant d'argent, des accusations au niveau pénal hein, si on a contrevenu au code de la sécurité routière, et évidemment des accusations criminelles. Donc, c'est vraiment l'information judiciaire, l'ensemble de ces informations-là. Et ce que j'ai envie de dire, bien, c'est que le processus judiciaire, bien, c'est pas uniforme pour tous les dossiers. Un dossier, même si c'est une même accusation en droit criminel, si une personne est accusée de fraude, bien, ça peut avoir différentes issues. Donc, c'est important de bien comprendre cette information-là, pas prendre ça à la légère, parce que, évidemment, les issues pourront être différentes d'un dossier à un autre. L'information judiciaire, à quoi ça sert? Ben, ça peut permettre, entre autres, pour les professionnels en ressources humaines, de savoir est-ce qu'une personne a déjà été impliquée dans un tel dossier et de vraiment connaître l'historique là, de ce dossier-là, comme je l'ai mentionné, jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue dans ce dossier-là.
On a abordé rapidement où est-ce qu'on trouve cette information-là, mais plus précisément pour les CRHA qui nous écoutent, entre autres, là, quel genre de démarche faut faire pour y avoir accès ou où est-ce qu'on la trouve?
Bien, ça peut être assez simple. De manière générale, j'aimerais rappeler que bon, notre système de justice, il est public au Québec. Donc, cette information-là va être accessible de différentes façons. Il y a entre autres dans les palais de justice, les cours municipales, des terminaux où on peut accéder à cette information-là. Bon, on peut faire des demandes aux postes de police locaux également pour avoir bon, justement l'historique judiciaire, le passé judiciaire d'un individu. Ou on peut également trouver cette information en ligne. Donc, notamment, la SOCIJ est un diffuseur des plumes. C'est-à-dire qu'on permet aux professionnels en ressources humaines, notamment, d'accéder à cette information-là. Et bon, l'information est accessible assez simplement. On a besoin de quelques informations seulement pour pouvoir interroger ces bases de données-là. Donc, le fait que ce soit accessible si simplement, ben c'est encore plus important d'être conscient de tout ce que peut contenir ces dossiers-là et d'en faire un usage éclairé, puis justement là, de se poser les bonnes questions justement quand on utilise cette information.
Ça parle de quoi en fait?
Ben en fait, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre quand on fait une recherche à travers les plumitifs? Surtout à quoi ne pas s'attendre? Un plumitif, ça donnera pas d'informations par rapport aux faits qui sont reprochés. Donc, il n'y a pas d'informations factuelles. On va avoir généralement des courtes notes qui vont vraiment nous expliquer l'ensemble du dossier. Bon, on va savoir de quoi une personne, par exemple, en droit criminel, elle est accusée. Mais bon, tous les faits derrière la petite histoire, on ne les aura pas en consultant le dossier. On va avoir vraiment donc de courtes notes qui nous donnent l'historique de ce dossier-là. On aura une idée des décisions qui sont rendues, mais généralement, surtout en droit criminel, les décisions sont rendues oralement. On dit qu'elles sont rendues sur le banc par le juge. Donc, le détail des décisions, généralement, elles n'apparaîtront pas à travers les plumitifs. Les plumitifs, les dossiers judiciaires ne sont pas non plus un relevé des casiers judiciaires. Donc, il y a une distinction à faire entre ces deux notions-là. Un dossier judiciaire, c'est une notion beaucoup plus large que celle d'un casier judiciaire. Un casier judiciaire, on l'entend souvent, c'est vraiment un registre qui est administré au fédéral par la GRC, qui nous donne une liste des accusations puis des condamnations des personnes qui ont été accusées d'avoir commis des infractions criminel. Donc, on est au niveau du, par exemple, le code criminel, la loi sur les drogues et autres substances. Donc, vraiment, des infractions criminelles et les personnes qui ont été condamnées. Une contravention au code de la sécurité routière, par exemple, c'est une infraction pénale. Donc, si on est accusé d'avoir brûlé un feu rouge, ben, on n'aura pas de casier judiciaire. Donc, vraiment, une distinction à faire entre ces deux termes-là. Un dossier judiciaire beaucoup plus large. Dès qu'un individu a un dossier qui a été ouvert dans un palais de justice ou une cour municipale, peu importe la nature de ce dossier-là, que ce soit au niveau pénal, au niveau criminel, au niveau civil, on dira qu'il a un dossier judiciaire. Donc, il ne faut pas s'attendre à retrouver là, là-dedans, dans les plumitifs, les casiers judiciaires des personnes. Et donc, on a de l'information beaucoup plus large à travers les plumitifs. C'est d'autant plus important dans ce contexte-là de se poser des questions, parfois à la personne si on se rend compte qu'il y a un dossier qui apparaît à travers les plumitifs, donc la personne qui a fait l'objet des vérifications, ben d'aller au-delà de la simple lecture du plumitif. Il y a certains éléments en discutant avec la personne qui était visée par la vérification qui peuvent être expliqués. Donc, pour donner un peu plus de contexte, parce qu'on se rappelle, des courtes notes très, très abrégées. On n'a pas de données factuelles là-dedans qui pourraient expliquer pourquoi on a un dossier.
On va parler maintenant avec Patrick, qui travaille avec les gens dont il est question dans ce balado. Ça part, j'allais demander, ça part de quoi l'information, mais d'abord, peut-être nous parler de ton organisation.
Bien sûr. Donc, le comité consultatif pour la clientèle judiciarisée, c'est un comité d'experts qui relève de la Commission des partenaires du marché du travail du Québec et puis qui a pour mandat d'évaluer la situation des personnes contrevenantes au Québec puis ensuite de proposer des pistes de solutions d'action pour améliorer leur intégration ou leur maintien sur le marché du travail. Donc, bref, c'est un portrait bref là, de ce que c'est le comité consultatif. Puis, somme toute, la clientèle, ce qui est intéressant, c'est que, c'est une personne sur cinq qui a un casier judiciaire. Donc, c'est un chiffre qui est assez considérable.
Il y a des gens qui nous écoutent là, qui sont surpris en ce moment, je pense. Là.
Je pense que oui. ça touche vraiment beaucoup de monde. Et puis, l'enjeu, c'est que ça a vraiment un impact sur leur capacité à intégrer le marché du travail.
Qu'est-ce que c'est l'impact, en fait?
Ben l'impact, il y en a plusieurs. Hein. On parlait de la soquille tantôt. Bon, il y a des gens qui vont faire l'analyse du profil judiciaire d'individu en allant chercher l'information judiciaire, notamment sur des plateformes comme ça ou en ayant accès à l'information judiciaire, exemple, dans les cours municipales, etc. Et puis, qu'il y a une difficulté d'interprétation peut-être de l'information judiciaire. Donc, à ce moment-là, ça crée un frein à l'embauche de ces personnes-là. Et puis, il y a aussi une méconnaissance du profil des individus. Lorsqu'on parle de personnes judiciarisées, on peut facilement, dans notre tête, se faire un portrait qui, parfois, est beaucoup plus grave que, sans rien banaliser, là, mais beaucoup plus grave que ce que l'individu a fait comme geste par le passé et dont il est réhabilité, d'ailleurs, et qui est prêt à intégrer le marché du travail. Mais l'humain est ce qu'il est. Bon, parfois, se fait un portrait qui est plutôt sombre ou négatif de la personne judiciarisée. Puis à ce moment-là, mettre de côté une candidature qui pourrait être franchement intéressante pour venir combler les besoins en main-d'œuvre dans une entreprise.
Puis est-ce qu'on peut faire un peu le portrait de la personne judiciarisée, la personne dont on parle?
On peut faire un portrait, mais c'est sûr que ça touche, on l'a dit, une personne sur cinq, donc c'est monsieur, madame, tout le monde. Mais généralement, c'est principalement des hommes qui ont un casier judiciaire, sous-scolarisés aussi, donc très peu un diplôme de secondaire 5. Et puis, 50% de ces gens-là ont moins de 35 ans, donc des jeunes. Donc, puis je pense que c'est important, justement, tu sais, on dit qu'ils sont jeunes, leur permettre justement d'intégrer le marché du travail parce que avoir un travail, ça va avoir des impacts bénéfiques et pour la personne et pour la société.
Comment les personnes judiciarisées vivent-elles avec l'information judiciaire? Est-ce qu'elles sont conscientes de ce que c'est,
Ben, la réponse à ça, c'est pas nécessairement. Hein. Même il y a des personnes qui sont judiciarisées qui ne le savent pas. Ils ont été condamnés, ils ont comparu devant la couronne. Oui, parfait, vous êtes coupable. Mais bon, parfois, ils pensent qu'exemple, le geste est considéré comme étant minime. Exemple, possession simple de stupéfiants. Ils disent, mon Dieu, tu sais, ça doit pas avoir des conséquences aussi graves que ça. Je suis conscient que je suis coupable, mais par la suite, t'imagines pas que, bon, c'est une information qui est retenue contre eux dans un système judiciaire.
Qui va y avoir des conséquences.
Définitivement. Puis là, c'est par la suite, lorsqu'exemple, ils tentent de se faire assurer. Bon, ben, les assureurs vérifient le casier judiciaire. Lorsqu'ils tentent se trouver un logement, même chose, le propriétaire peut aller voir l'information judiciaire et refuser de loger quelqu'un dans un de ses logements. Puis, bien entendu, intégrer le marché du travail. T'sais. Donc, ça a des conséquences, l'information judiciaire, c'est les personnes judiciarisées. Puis souvent, c'est des conséquences qui ne s'attendent pas, puis sont doublement surpris. Puis ça a un impact, c'est sûr, parce que là, bon, la personne se sent démunie face à ça. Même se demande, bon, comment faire, exemple, pour faire, éliminer tout ça, tu sais, pour pas que ce soit accessible. Malheureusement, ben, c'est comme ça, c'est accessible. C'est reconnu au Québec que c'est de l'information qui est d'ordre public, donc.
Puis les gens qui vont vous voir, vous, est-ce que c'est ça leur principal enjeu? Pourquoi ils vont vous voir? Parce qu'ils veulent savoir quoi faire avec ça?
Ben, entre autres, ils veulent savoir quoi faire avec ça, mais bien entendu, ce qu'ils veulent aussi, c'est décrocher un travail, en premier lieu. Soit parce qu'ils ont vécu, exemple, plusieurs refus en tentant par eux-mêmes d'intégrer le marché du travail, ou parce que, par la nature du délit, ils savent pas trop comment aborder le sujet avec des employeurs potentiels et veulent vraiment avoir un accompagnement à cet effet-là.
Merci beaucoup. À ce moment-ci, je vous propose de faire une petite pause. On est de retour dans quelques instants avec la suite de ce balado. Vous écoutez actuellement un balado proposé par la Société québécoise d'information juridique. Depuis 1976, Soquige simplifie la justice en combinant expertise juridique et technologie d'avenir. Chaque année, des milliers de professionnels ont recours à ses services pour suivre l'actualité jurisprudentielle, mieux comprendre l'information juridique et prendre des décisions éclairées. De retour avec le balado avec thème aujourd'hui, une vue 360 de l'information judiciaire pour mieux recruter. Ben justement, en parlant de recrutement, on va se rapprocher là, des CRHA. D'abord, Émilie, y a-t-il des erreurs à éviter sur le traitement de l'information lors de la vérification des dossiers judiciaires? On l'a dit tantôt, c'est de l'information sensible. Faut pas faire ça n'importe comment, j'imagine.
Oui, effectivement. Puis comme Patrick l'a mentionné aussi, ces genres d'erreurs-là laissent des traces, hein, puis des traces qui peuvent être inscrites dans un dossier bon, plus longtemps qu'on peut l'imaginer. Donc oui, quand je donne la formation à des personnes qui font des vérifications des dossiers judiciaires, je vois principalement quatre grands types d'erreurs. Premier type d'erreur que je vois, c'est faire erreur sur la personne. On veut vraiment s'assurer, quand on fait de la vérification à travers les dossiers judiciaires, de repérer les dossiers qui concernent le bon individu. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est assez facile d'accéder au dossier. Essentiellement, on a besoin que du nom et du prénom d'un individu. On peut bien se douter que des gens Tremblay au Québec, il n'y en a pas qu'un seul. Donc, c'est important justement de s'assurer, quand on fait cette vérification-là, qu'on obtient une liste de dossiers, de s'assurer qu'on va tirer des conclusions sur la bonne personne. Il y a évidemment des informations qui peuvent être utiles dans le cadre de la vérification pour permettre d'aller croiser des informations, puis de faire la vérification de manière un peu plus complète. On peut utiliser, entre autres, la date de naissance de l'individu. On peut essayer d'avoir en main un historique des différentes adresses de la personne pour, si jamais on tombe sur un dossier qui est un peu plus ancien, pouvoir faire le croisement des informations. Puis si jamais un doute subsiste malgré ces informations qu'on aura obtenues, je pense que c'est important pour un professionnel en ressources humaines d'être transparent, informer la personne qui a fait une vérification, puis peut-être la questionner avant de tirer des conclusions trop hâtives. Deuxième grande erreur que je vois souvent, c'est de faire des erreurs quant à l'issue, quant au résultat du dossier. Quand on fait une vérification avec le nom, le prénom de l'individu, généralement, on va obtenir une liste de dossiers qui correspondent à nos critères de recherche. C'est important de pas aller trop vite, justement. Quand on voit des dossiers qui semblent correspondre à l'individu qu'on recherchait, mais c'est important de faire une analyse complète. Un dossier pourrait se retrouver dans cette liste de résultats-là, mais en ouvrant, en consultant le plumitif, donc le registre, on se rappelle en des notes qui concernent ce dossier-là, on pourrait s'apercevoir que, oui, la personne, elle a été peut-être accusée il y a quelques années, mais que au terme des procédures, c'est un verdict d'acquittement qui a été rendu. Ça laisse quand même une trace. Donc, c'est important d'ouvrir ce dossier-là et d'aller voir, qu'est-ce qui était vraiment question quant à des accusations qui ont peut-être été portées. Troisième type d'erreur que je rencontre également, ça peut être des erreurs sur le degré d'implication d'un individu dans un dossier. Dans certaines situations, en droit criminel, un dossier peut impliquer plusieurs co-accusés. Des accusations, par exemple, d'avoir comploté, ces individus-là n'auront pas nécessairement tous le même degré d'implication dans le crime qui pourrait avoir été commis. Donc, encore une fois, il faut s'assurer de bien lire l'information qui concerne aussi le bon individu, pour éviter de tirer des conclusions qui seraient erronées. Finalement, on l'a dit un peu plus tôt, cette information-là, c'est généralement des courtes notes, des notes abrégées, des fois du jargon un peu plus technique, un peu plus juridique. On se rappelle, c'est l'historique des dossiers judiciaires. Ce sont les greffiers, les greffières des tribunaux qui vont entrer cette information-là. C'est pas tous les professionnels en ressources humaines qui sont des juristes. Par contre, faut vraiment bien s'assurer de comprendre l'information qu'on retrouve dans ces dossiers-là. Entre autres, pour une accusation en droit criminel, s'assurer, il y a généralement l'article du code criminel qui va être écrit dans le plumitif, de quoi la personne était accusée. Quand on lit l'article en question dans le code criminel, il faut entre autres s'assurer de lire la bonne version de l'article. Le code criminel, c'est une loi qui évolue avec les années. Il y a des articles qui, avec le temps, peuvent être modifiés, peuvent être abrogés. Et les inscriptions dans le punitif ne sont pas nécessairement modifiées au fil des années. Donc, ça pourrait entraîner des erreurs de lecture, des erreurs d'interprétation sur vraiment de quoi la personne était accusée. Donc, on veut vraiment s'assurer de faire une lecture éclairée. Évidemment, il y a des ressources qui sont disponibles pour bien comprendre cette information-là. Il existe de la formation. Et comme je l'avais mentionné tout à l'heure, si jamais il y a un doute qui subsiste, on peut consulter un conseiller juridique justement pour bien comprendre cette terminologie.
On a dit tantôt que nul n'est censé ignorer la loi, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui la connaît.
Effectivement.
Donc, il faut la lire bien comme il faut. On a bien compris. Patrick, un CRHA qui arrive dans un dossier, qu'est-ce qu'il peut faire comme différence dans quelqu'un qui est dans cette situation-là? C'est pas banal, là.
Non, mais le professionnel en ressources humaines peut faire toute une différence parce que au final, c'est la personne qui va probablement décider à savoir si la personne va obtenir l'emploi ou non. Ce qui est important, on parlait de nul n'est censé ignorer la loi. Reste que la charte prévoit qu'une personne ne peut pas faire de discrimination à l'embauche si la personne a un casier judiciaire et si le crime qu'a commis n'a aucun lien significatif avec l'emploi. Donc ça, d'abord, je pense que tous les professionnels en ressources humaines devraient savoir cet élément-là, qui est intéressant dans son analyse de la personne qui va être devant elle, à savoir si elle peut être embauchée ou non.
Avec 72 % qui sont pas prêts à embaucher une personne judiciarisée, puis une personne sur cinq qui a un casier, il y a comme mathématiquement, il y a un choc, il y a un clash quelque part, là.
Définitivement, mais on peut être agile dans sa façon de recruter, là. Ce qui est important, vraiment, c'est l'analyse du statut judiciaire de l'individu. Selon nous, cette analyse-là devrait venir à la toute fin du processus d'embauche. Donc, vraiment, on voit l'humain d'abord, on voit s'il y a les compétences nécessaires ou la capacité intégrée du travail, et si on décide que cette personne-là, c'est la meilleure personne pour occuper le poste chez nous, à ce moment-là, on pourrait passer à l'analyse de l'information judiciaire, à savoir, est-ce que la personne a commis une infraction qui aurait un lien significatif avec l'emploi pour lequel il postule? Si la réponse est non, à ce moment-là, la personne serait tout à fait éligible d'intégrer le marché du travail et d'intégrer son entreprise. Donc, exemple, on est conscient qu'une personne qui aurait fait de la fraude, notamment, si elle vise un poste dans une grande institution bancaire, le crime commis aurait un lien significatif. Puis à ce moment-là, le professionnel en ressources humaines aurait la légitimité de dire « malheureusement, votre candidature est rejetée ». Mais c'est vraiment faire preuve de discernement, mais ça permettrait de toute façon, en amont, au moins de voir l'être humain qui se présente devant nous. Mm-hmm. Ça, c'est important.
Oui, que ce soit pas le point de départ d'évaluation de la personne.
Exactement. Puis du moment que la personne met carte sur table aussi, puis dit qu'elle a un casier judiciaire, ou suite à une évaluation, notamment sur la plateforme Sokige, qu'on se rend compte que la personne a un casier judiciaire, c'est lui permettre d'expliquer les raisons pour lesquelles elle a été judiciarisée. Puis parfois, en arrivant à comprendre, on se rend compte que souvent, c'est une première infraction, c'est une infraction qui est dans un contexte très spécifique et que la personne ne va pas nécessairement récidiver dans le milieu de travail et est prête à mettre ses compétences à contribution de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est vraiment important de traiter la personne de manière très humaine et puis de l'amener à pouvoir s'exprimer sans jugement aussi lors du processus d'embauche.
Mais si je peux me permettre, encore faut-il ne pas être dans les 72% qui veulent pas les engager, là. C'est un peu le but du balado d'aujourd'hui, on me dira, là, mais
ouais,
il y a quand même de la sensibilisation à faire.
Mais c'est sûr qu'on souhaite que statistiquement cette donnée-là baisse, dans le sens que il y a tout intérêt à embaucher les personnes judiciarisées. Il y a un sondage léger qui a été fait en 2021 pour le comité consultatif pour la clientèle judiciarisée adulte, qui justement spécifie que lorsqu'on permet à une personne judiciarisée d'intégrer le marché du travail, ça fonctionne bien. Vraiment, il y a pas d'enjeu majeur. Ou s'il y a des enjeux, ce n'est pas lié à la judiciarisation de l'individu. Il y a des enjeux qui sont liés notamment peut-être à l'acquisition des compétences propres au marché du travail. D'autres enjeux qui sont liés au savoir-être. Une personne qui ne rentre pas le matin, qui appelle pas, qui donne pas de nouvelles, ça peut arriver à n'importe qui, qu'elle soit judiciarisée ou non, là. Donc, mais au niveau du crime, il y en a peu ou presque pas du tout dans le milieu de travail. Donc, c'est vraiment important à considérer. Puis, je pense que on peut s'assurer que ce n'est pas épeurant d'embaucher une personne judiciarisée. Bien au contraire, ça a seulement que des effets positifs.
Et justement, si on veut que ce soit positif, comment on s'y prend? Qu'est-ce que avez-vous des conseils pour faire en sorte qu'une personne judiciarisée, ça se passe bien une fois rendue dans l'organisation?
Oui, absolument. Ben, c'est de la traiter comme on traiterait tous les autres employés. C'est vraiment d'y donner un plan d'intégration avec notamment les éléments qu'il va avoir besoin pour bien faire son travail, comme on ferait avec tout le monde, de le présenter à ses nouveaux collègues sans y mettre une étiquette que c'est une personne qui a été judiciarisée par le passé. Et puis, une fois que ça c'est fait, comme tous les autres membres du personnel, c'est censé bien fonctionner. Au final.
Et d'après ce que vous dites là, par rapport au sondage dont vous parlez oui. tantôt, c'est ça. Ça donne pas des employés forcément plus difficiles que les autres à gérer.
Pas du tout, pas du tout.
Pouvez-vous nous parler d'un exemple en particulier où ça s'est très bien passé?
Bien sûr. On parle justement comment faire. Il y a des organisations au Québec, il y a plus de 9 organisations au Québec qui travaillent principalement avec la clientèle judiciarisée en matière d'intégration et de maintien sur le marché du travail. Donc, c'est intéressant à ce moment-là de développer des liens avec ces organisations-là pour permettre de recruter du personnel qui provient du bassin de population qui a un casier judiciaire. Et puis, en Outaouais, j'ai un exemple d'une entreprise en commerce de détail, une entreprise canadienne très connue, par le passé, était frileux d'embaucher les personnes judiciarisées parce qu'il y avait énormément de vols à l'étalage. Et puis, contexte de rareté de main-d'œuvre oblige, on s'est tourné vers ce bassin de travailleurs-là potentiels. Et puis, en collaborant avec l'organisation, on a vraiment créé des plans d'intégration sur le marché du travail avec un intervenant qui travaille spécifiquement avec la clientèle judiciarisée pour intégrer ces personnes-là chez l'employeur en commerce de détail. Et puis, c'est vraiment des plans qui sont construits, notamment quel type de qualification tu dois avoir pour bien travailler à même l'entreprise. Et puis, on démystifie le casier judiciaire de l'individu. Puis, à ce moment-là, ça rassure les professionnels de ressources humaines qui donnent l'opportunité à ces gens-là d'intégrer l'entreprise. Et puis, depuis, là, c'est plus d'une dizaine de personnes qui ont décroché un emploi dans cette entreprise-là, puis que ça fonctionne bien. Puis quand il y a un pépin, quand je parle de pépin, je parle pas de récidive, mais pas du tout. Mais exemple, un enjeu lié aux connaissances ou aux compétences, ben c'est facile à ce moment-là pour le professionnel des ressources humaines d'appeler la ressource en communauté, puis qu'on fasse un plan d'action pour que la personne puisse justement parfaire son cheminement à même l'entreprise, puis maintenir l'emploi plutôt que de le mettre à pied puis d'être obligé de recommencer le processus de recrutement qui est long puis qui a un coût pour l'entreprise.
Et puis on peut facilement, j'imagine, extrapoler sur les coûts pour la société aussi de quelqu'un qui est judiciarisé mais qui n'est pas en emploi avec tout ce qui peut s'en suivre. Là. Donc c'est bon pour la personne, pour les organisations puis pour la société finalement.
Pour tout le monde, t'as bien raison.
C'est bon pour tout le monde. On a parlé, une ressource, Émilie, allons un petit peu plus loin, là, les ressources disponibles pour les CRHA. Qu'est-ce qu'on aurait à dire là-dessus?
Bien, j'ai l'impression que ce qui ressort de notre discussion, c'est notamment l'importance de bien s'informer. Donc, à la Société québécoise d'information juridique, on offre différentes ressources justement pour mieux comprendre cette information-là, comprendre cette terminologie juridique-là. On a, entre autres, un centre d'aide sur lequel les personnes peuvent retrouver différents documents explicatifs pour bien comprendre, lire un plumitif. On offre aussi des formations beaucoup plus avancées. Là, on a une formation de près de 4 heures justement sur bien comprendre, faire de bonnes recherches, des recherches complètes puis bien comprendre l'information qui en ressort. Donc, c'est différentes ressources là, qu'on peut trouver à la SOKIJ parce qu'on a vraiment à cœur justement que de mettre en lumière cette information-là. On diffuse cette information-là, mais on veut que les gens l'utilisent de manière judicieuse et efficace. J'ai l'impression que ce qui ressort aussi, c'est d'ouvrir un certain dialogue aussi avec cette main-d'œuvre-là. Je pense qu'en s'informant bien puis en posant peut-être des questions justement aux personnes qui font l'objet de ces vérifications-là, je pense qu'on est dans la bonne voie.
Une petite qui s'adresse aux deux parce que je veux faire du pouce sur ce que vous venez de dire, Émilie. Un petit côté tabou quand même là, là-dedans. Est-ce qu'il y a des façons plus élégantes, plus faciles de commencer cette discussion-là, entamer cette discussion-là avec quelqu'un?
Ben, j'ai l'impression que, bon, cette information-là, elle est là, elle existe. Il y a des traces qui sont laissées, donc on peut pas... puis le système de justice va rester public, donc c'est pas quelque chose qui va changer. Donc, je pense que, d'abord, quand on fait ce genre de vérification-là, ben, peut-être d'informer la personne au préalable que c'est quelque chose qui va être fait, ben, ça lui donne l'occasion de déjà s'expliquer en amont, peut-être. Donc, déjà, d'être transparent dans le cadre de ces vérifications-là, je pense que c'est quelque chose qui peut aider. Patrick, je sais pas si...
Bien que c'est tabou, reste que, comme Emily disait, c'est là, ça existe, puis je pense que la clé, c'est de le faire de manière responsable, puis toujours en humanisant toutes les personnes qui sont impliquées dans le processus. Et puis, ce qui est intéressant, la SOKIJ, qui propose comme plateforme d'information judiciaire aussi, c'est que reste que c'est des experts qui sont derrière ça, c'est professionnel, puis bien entendu, bien que parfois c'est difficile d'interprétation, ça reste toujours mieux qu'un article, exemple de journal, qui va parler du passé judiciaire de l'individu. Donc, c'est de l'information qui sont professionnelles. Et aussi, il y a des professionnels qui sont disponibles pour quand même aider la personne à bien comprendre cette plateforme-là et aller bien chercher les éléments qu'il a besoin dans son recrutement de personnel par la suite. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait cette collaboration-là. Et puis, pour un CRHA, c'est important aussi qu'il y ait une collaboration, je pense, avec les organisations qui existent en communauté pour vraiment être en mesure d'avoir des professionnels en intervention auprès des personnes judiciarisées qui vont pouvoir probablement les accompagner tout au long du processus d'embauche et même par la suite pour que la personne puisse maintenir son emploi.
Et ne pas se priver d'un bassin d'employés qui pourrait répondre à des besoins criants dans la société.
Absolument.
On retient que justement cette clientèle-là existe, qu'elle est disponible et qu'elle ne sera pas plus compliquée qu'une autre à gérer dans une entreprise et aussi qu'il faut gérer l'information correctement parce que c'est de l'information plus sensible que d'autres, peut-être. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce balado.
Merci. Merci beaucoup.
Merci à vous également qui êtes à l'écoute. Et si, comme moi, vous avez été touché, impressionné ou intrigué par le contenu de ce balado expertise, ben ne vous gênez pas pour le commenter et le partager avec votre réseau. Je m'appelle André Champagne et je vous dis à très bientôt pour un autre balado expertise du Carrefour RH.